RCF.
Bonjour, je suis Bertrand Millet, je suis le directeur du Colisée à Roubaix.
Bonjour Bertrand Millet, je suis ravi de vous accueillir. Le Colisée à Roubaix, c'est un haut lieu du spectacle qui fait référence dans la métropole lilloise. Alors nous allons mieux vous connaître Bertrand Millet, puisque nous allons vous connaître au-delà de votre fonction de directeur général. Qui êtes-vous ? La grande question qu'on n'arrête pas de se poser tout au long de notre existence. Alors vous allez vous laisser conduire par des questions que vous allez piocher dans cette boîte à questions devant vous. Elles sont parfois décalées, insolites, inattendues. Bon, vous êtes habitué aux imprévus, j'imagine, par votre métier,
hein ? Particulièrement par les temps qui courent.
Et particulièrement, oui, ça fait un petit moment d'ailleurs. Hein. Ouais. Et puis vous êtes venu avec des indices à propos du « qui êtes-vous ?» et que vous allez nous partager avec nos auditeurs. Alors Bertrand Millet, ça fait 15 ans que vous êtes un marchand de rêves, de rire, d'émerveillement et de poésie au Colisée de Roubaix. Après aussi avoir dirigé le Zénith à Lille, aussi un haut lieu d'événements. Rappelons quand même que le Colisée est une salle de spectacle prestigieuse. En métropole lilloise, elle accueille près de 1500 spectateurs.
1723 même.
Oui, c'est important, les trois supplémentaires. Et au cours d'une année normale, si je puis dire, hors pandémie, hein, ce sont à peu près 90 soirées programmées an, hein, soit près de 2 soirs par semaine. Alors on y trouve aussi bien de la danse, du théâtre, du cirque, des concerts. Bref, vous êtes multiformat et multistyle. Alors, j'ai envie de vous demander, on vous l'a certainement déjà posé 1000 fois cette question, mais... Vous qui êtes un homme du spectacle, qui organisez des spectacles, quel est celui qui vous a fait pleurer ?
Si je en retenir un seul, ce serait difficile. Mais j'ai quelques grandes émotions et d'excellents souvenirs avec, par exemple, avec le Cirque Plume.
Ah,
vous voyez,
le Cirque
c'est
Plume.
Une compagnie originaire de Besançon qui a réinventé complètement le cirque contemporain en France et que j'ai accueilli de très nombreuses fois, pratiquement tous leurs spectacles depuis le milieu des années 90. Et à chaque fois, ça durait une semaine et on accueillait des milliers de spectateurs. Toujours avec un grand brassage à la fois de milieux familiaux, de catégories sociales, d'âge. C'était toujours des salles très, très joyeuses, festives et des spectacles d'une poésie, d'une beauté. Donc voilà, si j'en cite un, la compagnie du cirque.
Et le cirque, ça rassemble, hein, finalement. Oui. Au-delà des différences, tout le monde se retrouve là dans le cirque. Hein.
C'est ça.
Tout le monde redevient enfant.
Ce sont des esthétiques créatives qui, qui touchent tout le monde, toutes les catégories sociales, je le disais. Donc c'est toujours un grand bonheur d'accueillir ce type de compagnie.
Ouais. Alors, 90 spectacles par an,
à peu près
hein. Dis donc, c'est pas une mince affaire. Est-ce que vous pouvez nous emmener un peu dans les coulisses, si je peux dire, de la programmation ? Comment vous faites là ? Parce que c'est quand même un sacré tour de force.
C'est un métier.
Ouais.
Non, d'abord, j'essaye de voir tous les spectacles avant de les accueillir. Au moins les spectacles visuels, la danse, le cirque, le théâtre, je me déplace sans arrêt. Vous voyez, tout à l'heure, je prendrai le train pour aller à Paris pour voir deux pièces de théâtre dans la soirée. Je me déplace, je vais voir les spectacles. Je le fais moins pour les concerts. Je n'ai pas la nécessité de retourner voir Julien Clerc pour la 5e fois, alors que, vous voyez, je vais me contenter d'écouter un album. Donc je vais voir, j'essaye de sélectionner, j'essaye de bâtir ma programmation en essayant d'avoir quelque chose d'harmonieux, des propositions qui touchent des publics différents, des esthétiques différentes, d'avoir à la fois de l'humour, des choses poétiques, voyez, des choses intelligentes aussi, pour essayer d'emmener le public vers des choses un peu inattendues, qui sortent des sentiers battus, tout en ayant à l'esprit que je cherche à remplir au moins 1000 spectateurs à chaque fois. Donc il faut que ça reste quand même très accessible et très grand public.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a excusez-moi du mot, mais une réflexion marketing ?
Bien sûr, il y a cette dimension-là aussi. Le Colisée, sur un modèle économique qui repose essentiellement, c'est un théâtre public, mais le modèle économique repose essentiellement sur ses ressources de billetterie, ses ressources propres. On accueille 100 000, 120 000 entrées par an les meilleures années, et donc il faut effectivement des salles pleines. C'est pas une salle propice à la découverte au sens d'artistes émergents. Vous voyez, il faut déjà une certaine notoriété pour rassembler. On était avant Covid, on était très très souvent complet, 1700 personnes par soir. Hein. Donc, ce sont déjà des artistes qui ont une visibilité au plan national ou international.
Ça, oui. National ou international, ouais, ça c'est important.
Ouais. Donc, je dialogue avec des producteurs, avec des tourneurs. Voilà, ce sont mes interlocuteurs au quotidien pour bâtir cette programmation. Je me tiens au courant des créations. Je suis les travaux des metteurs en scène, des chorégraphes, etc. pour être à l'affût des projets les plus intéressants.
Donc vous travaillez le soir et la nuit finalement.
Ah oui, c'est un métier de la nuit. Oui, oui, beaucoup. C'est un métier de la nuit parce que effectivement, soit je suis au Colisée à l'accueil du public et des artistes, soit je suis en déplacement pour aller prospecter et trouver des choses intéressantes à Paris souvent, à l'étranger parfois, dans les festivals beaucoup. Je vais au Festival d'Avignon, j'y reste toujours une partie de mon mois de juillet pour trouver aussi des petites pépites. Voilà. Et puis ça fait, vous savez, plus de 30 ans que ça dure. Donc j'y suis habitué. Puisque dans d'autres lieux, vous l'avez dit, j'ai dirigé le Zénith auparavant, puis un autre théâtre à Nantes. Enfin, j'ai vraiment un parcours exclusivement en direction de structures culturelles. Donc j'ai toujours fait ça, moi.
Et est-ce qu'on peut devenir critique? Critique de spectacle avec l'expérience que vous avez, ou c'est encore un autre métier?
C'est un autre métier d'écrire des critiques, mais je le suis par la force des choses, à chaque fois que je vais voir un spectacle, les artistes, le metteur en scène, les gens qui sont chargés de le faire tourner savent que je suis dans la salle et s'adressent à moi après pour avoir mes réflexions et savoir si je suis intéressé pour le faire venir dans ma salle. C'est comme ça que ça marche.
Alors 20 ans dans le Nord, 15 ans à Roubaix. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes naturalisé nordiste ?
Ah, c'est difficile à dire. Écoutez, c'est l'endroit dans ma vie où j'ai vécu le plus longtemps. Donc, vous savez, je commence à me sentir d'ici. Mais si je devais répondre à la question d'où êtes-vous Bertrand Millet, je continue à penser que je suis parisien. Voilà, c'est ma racine familiale, c'est là où réside la plupart de ma famille. Voilà, mais je commence à être très attaché ici, et mes enfants encore plus que moi. J'ai 5 enfants, ils sont très très attachés aussi au nord. Donc voilà, il n'est pas question de bouger.
Ils ont vécu toute leur adolescence ou leur jeunesse.
Exactement.
Dans le nord.
Le dernier est né ici, et donc tous leurs amis sont là. C'est ici que ça se passe pour nous maintenant.
Bon. Alors, je vous invite maintenant à plonger votre main dans cette boîte à questions et puis de vous laisser questionner par la main.
Bon, et si la question ne me plaît pas, je pioche une autre.
Allez, oui.
Non, mais ça ira très bien sûrement. Alors, êtes-vous plutôt sucré ou salé ?
Oh, facile, là. Hein.
Oui, facile.
Là, on démarre en apéritif.
Écoutez, moi, je suis beaucoup plus salé. Ma femme est beaucoup plus sucrée. Donc, vous voyez,
ça fait un peu les deux. Mélange.
Voilà. Et j'adore faire la cuisine.
Ah oui.
Et mes enfants encore plus que moi. Je vous ai dit 5 enfants, donc 4 garçons. Tout le monde se bagarre pour prendre les fourneaux.
Ah oui.
Et donc, c'est devenu un hobby familial. Et donc, on aime bien cuisiner.
Et alors, vous, c'est quoi votre plat?
Le pot-au-feu, mon cher Patrice.
Le pot-au-feu.
Je suis très. Oui. Voilà, j'aime les cuisines mitonnées comme ça pendant longtemps.
D'accord.
Voilà.
D'accord, très bien. Bon. Alors, poursuivons le repas avec une autre question.
Poursuivons le repas avec une autre question. Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Écoutez, moi, je reste bon public. Vous voyez, c'est pour rejoindre un petit peu l'interrogation de tout à l'heure, je passe mes soirées à l'extérieur à voir des spectacles. Je suis toujours heureux de m'asseoir dans une salle de spectacle et je suis bon public. Et donc, je souris ou je ris, même franchement, au spectacle.
Ça veut dire quoi, bon public ?
Bon public, ça veut dire que, d'une part, j'aime ça. J'aime toujours m'asseoir dans un lieu. Je ne suis jamais... ni fatigué, ni lassé de faire ça. Je pense que j'ai aussi une capacité à me laisser séduire et entraîner dans les histoires. J'ai certainement de la curiosité et de l'imagination. Et c'est aussi, je pense, un élément important pour faire ce métier, puisque je me laisse volontiers embarquer. Quand je ressors, ma femme me le dit tout le temps, par exemple, on va au cinéma, on voit une belle histoire, etc. Et quand je ressors de là, j'ai envie de me lancer dans les mêmes aventures que le héros, de faire des... Voilà.
Oh là,
je me fais embarquer, vous voyez. Donc c'est ça, être bon public. Et ce qui me fait sourire, bah je souris très franchement au théâtre. Allez, je vais vous citer le genre d'humour qui me fait marrer. Les Faux British, une pièce de théâtre qu'on a accueillie plusieurs fois il y a quelques années, qui est une pièce un peu absurde, un décor qui se casse la figure. Enfin, c'est une compagnie amateur qui s'attaque à un projet trop compliqué pour elle. Eh bien, ce spectacle-là m'a fait plus que sourire, il m'a fait hurler de rire. Voilà.
Et puis vous êtes quelqu'un d'enthousiaste.
Oui.
C'est ce qui se voit dans votre sourire.
Oui, effectivement. Ouais. J'aime bien dynamique, essayer d'être. Vous savez, il faut que je sois enthousiaste moi-même pour arriver à enthousiasmer tous ces spectateurs qui comptent sur moi.
Ouais. Voilà. Alors, vous êtes venu avec un morceau de musique de votre choix. Hein. Mmh. C'est cette musique que vous écouteriez sans fin, en boucle. Alors, parlez-nous-en.
Est-ce que je dis de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Bon, alors, je vous ai suggéré de passer un morceau de Clara Luciani qui s'appelle Respire encore. Ah. Donc, Clara Luciani, c'est une artiste. Alors, maintenant, elle est hyper connue. Elle est venue au Colisée, figurez-vous, en 2016, en première partie d'un chanteur qui s'appelle Raphaël. Alors là, elle était complètement inconnue. Elle était complètement incognito. Bon, maintenant, elle remplit les zéniths sans difficulté, Clara. Et j'ai choisi cette chanson parce que je l'ai beaucoup écoutée cet été. Pour moi, c'était le tube de l'été et c'était le tube du déconfinement. Ça s'appelle Respire encore.
Respire.
Pour la bonne raison que l'été dernier, on respirait sans masque et qu'on n'avait qu'une envie, c'était justement d'avoir de l'air plein les poumons.
Alors, respire encore, respire toujours.
Tour de la question, Patrice Rouher.
Voilà, j'ai le plaisir de découvrir avec nos auditeurs Bertrand Millet, qui est directeur général du Colisée. Voilà, dans l'émission Le Tour de la Question, qui est où qu'on pourrait dire qui êtes-vous. Alors, vous avez commencé à piocher des questions dans la boîte à questions. Allez, je vous propose, on s'y remet.
On continue. La suivante. Quel est le lieu, l'endroit sur notre planète dans lequel vous vous retrouvez le plus et le mieux ? Écoutez, moi,
c'est pas Roubaix.
Mais je vous parlerai avec plaisir de Roubaix. Oui. Je m'y sens bien et je vais vous expliquer pourquoi peut-être. Mais non, l'endroit, je vais pas être très aventurier là-dessus. Mais moi, c'est un petit coin du Lot où je me sens vraiment très bien. Vous voyez, c'est un endroit perdu de vieilles pierres et de patrimoine ancien. Voilà. Il y a pas. Alors c'est un peu. C'est un peu isolé, hein, c'est un petit peu loin du monde et c'est un endroit de ressourcement très important pour moi où j'aime passer du temps.
Voilà. J'imagine, vous qui êtes toujours dans les spectacles, besoin à un moment donné de silence,
voilà, ou de beauté, de paysage, voilà,
de nature,
ouais, de spiritualité, ouais, aussi. Ouais, hein, ouais, donc ouais, c'est, ouais. Oui, tout ça je le trouve dans le Lot. Voilà. Ah, donc oui, si vous me donnez un choix à quel endroit j'ai envie d'être, c'est souvent
c'est
là,
le Lot.
C'est là que je me projette.
Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Allez, on continue notre petit voyage.
La suivante. Dans notre région des Hauts-de-France, quel endroit aimeriez-vous me faire découvrir ? Vous savez, ça va être facile. Moi, c'est Roubaix. Roubaix, ça a été une découverte, un choc. Je connaissais pas du tout avant de venir vivre dans le Nord, il y a pratiquement 20 ans. Eh bien, c'est une ville extrêmement attachante, à la fois par son patrimoine, par les gens qui y vivent, qui la font vivre, par tout ce que j'y ai découvert. Je me suis vraiment pris de passion pour cette ville, pour son histoire, pour ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu. J'y ai acheté une maison, une deuxième maison, j'y vis encore. Et voilà, je trouve vraiment qu'elle gagne à être connue, à être découverte. Elle est pleine d'artistes et c'est une ville qui se renouvelle et qui renaît grâce à la culture. Donc ça, c'est ce qui...
C'est vrai que c'est un levier, hein, entre la piscine,
voilà,
le Colisée.
Le musée, la piscine, la condition publique, le gymnase, le ballet du Nord, le Colisée est complètement dans cette dynamique-là. Non, évidemment, tout ça, c'est passionnant. Il y a des projets sans arrêt, et comme je le disais, des ateliers d'artistes, des manifestations culturelles partout, tout le temps, c'est très vivant, bien plus que la plupart des villes de 100 000 habitants. Donc c'est, voilà, de ce point de vue-là, c'est passionnant, et Roubaix, je le fais souvent découvrir, je reçois du monde.
Bien
je
sûr.
Dis que ma famille est plutôt parisienne, à chaque fois, ils viennent ici, je les emmène à la Villa Cavrois, au musée, un peu partout. Voilà, il y a trop de choses à voir.
Alors vous êtes venu, Bertrand Millet, avec un objet qui pourrait vous représenter ou vous symboliser.
Oui.
Quel est-il ?
Ah bah écoutez, voyez, c'est un tout petit objet, il est là, hop, c'est ça.
Alors pour nos auditeurs...
Alors, c'est un trousseau de clé d'abord, c'est un objet qui a plusieurs significations. C'est un trousseau de clé et c'est un trousseau de clé marqué 64.
C'est un département ça ?
Oui, c'est un département.
Oui.
À l'envers, ça fait 46 déjà, c'est le Lot. Mais 64, c'est mon autre département de cœur.
Qui sont proches finalement l'un de l'autre.
Assez proches, c'est le sud-ouest, tout ça. Oui, c'est les Pyrénées-Atlantiques et c'est le... C'est le Pays Basque, exactement.
Vous êtes basque, alors ?
Alors, je ne suis pas basque, non. J'ai vécu au Pays Basque, à Bilbao, plusieurs années. Mon premier boulot, c'était pour diriger l'Institut français à Bilbao.
Et puis, quelle magnifique ville.
Ma femme
ville,
est née à Saint-Jean-de-Luz.
Ah oui.
Mon fils est né à Saint-Jean-de-Luz. Et je suis très, très attaché aussi au Pays Basque, voyez. Donc, tout à l'heure, on parlait du Lot, le Pays Basque, voilà. Moi, c'est par là que ça se passe.
Et Bilbao, quelle résurrection !
Une ville
grâce au culturel.
Exactement, bravo Patrice, mais c'est tout à fait vrai. Moi je crois que la culture peut changer la vie des gens et changer les villes. Et Bilbao, c'était exactement ça. J'y étais au début des années 90, c'était une ville qui était un petit peu au fond du trou, avec des grands problèmes d'industrie qui s'étaient cassé la figure, métallurgie, etc. Et grâce au Guggenheim en premier
exactement,
lieu, est arrivé vers 95, et bien la ville est vraiment a complètement changé de dimension. Après il y a eu le métro, après il y a eu plein de projets dans
et
tous les sens.
La partie industrielle qui a été refaite là,
les bords du Nervión, la Ria Nervión, je vois que vous connaissez. Et ben voilà, c'est une ville qui s'est métamorphosée en premier lieu grâce à la culture. Je pense que Roubaix quelque part est un petit peu pareil dans
elle
des conditions
jumelée différentes avec Bilbao finalement.
Elle pourrait, et en fait c'est Bilbao, c'est un petit peu la métropole illoise. Quand je suis arrivé dans le nord, c'était en 2003 et il y avait l'île 2004, vous savez qu'elle a été aussi un accélérateur formidable sur le plan de la culture dans cette métropole, et Roubaix était complètement dans cette dynamique-là aussi.
Allez, une petite question.
Une petite question au hasard. Allez, hop, celle-là. Quel a été le déclic ou le clic qui vous a conduit à ce que vous êtes devenu dans votre engagement ou votre vie professionnelle ? Bon, c'est intéressant comme question. Souvent, je reçois des étudiants, j'ai été aussi prof, j'ai donné des cours d'économie du spectacle à Sciences Po, etc. Et très souvent, la question revient. Comment est-ce qu'on devient directeur artistique d'un théâtre ? Ce sont des métiers peu connus, nous sommes peu nombreux, et donc on s'interroge sur les parcours. Alors, j'avais des confrères souvent plus âgés que moi qui venaient beaucoup du milieu socio-culturel, directeur de MJC, vous voyez des parcours comme ça. Moi, c'est pas du tout le cas. On m'aurait dit à 18 ans, tu seras directeur d'un théâtre, d'une salle de spectacle, d'un zénith. Ça m'aurait surpris. Je n'avais pas envisagé cette carrière-là. Moi, je suis toujours beaucoup allé au spectacle. J'ai des antécédents familiaux qui sont quand même assez plongés là-dedans. J'ai un grand-père qui était éditeur de musique et qui a lancé les frères Jacques, Bourville, Léo Ferré, vous voyez, ce genre d'artistes dans les années 60. Mais je n'aurais pas pensé en faire mon métier. Moi, je voulais être diplomate. J'ai fait des études universitaires à la Sorbonne. Je me voyais travailler en ambassade. Je vous ai dit que j'étais parti en Espagne. C'était pour les affaires étrangères. Et après, eh bien, c'est un peu les hasards des parcours professionnels. J'ai dirigé un monument historique dans l'est de la France, la Saline d'Arc et Senans. J'ai dirigé un théâtre à Nantes, le Zénith, et puis maintenant le Colisée. Vous voyez, ce sont les hasards des parcours professionnels.
Mais il n'y a jamais de hasard. Vous le dites bien,
le hasard fait bien les choses, vous savez.
Il y a des gènes, au fond.
Il y a des gènes, au fond.
Que vous avez reconnecté.
Une curiosité. Et finalement, je vais vous dire, le plus important, c'est que j'ai le sentiment d'être à ma place. Et ça, c'est une grande satisfaction de se dire, je pense que j'ai un métier que j'aime, je sais le faire, les gens me font confiance, j'ai à la fois... le soutien de mes tutelles, de la ville de Roubaix, le soutien de mon équipe. Et donc, voilà, j'aime ce que je fais. C'est une grande satisfaction de se dire ça. Je rencontre tellement de gens qui me disent « Oh là là, j'aimerais bien changer parce que ça ne va pas. »
Alors, à mon tour de vous poser des questions, une ou deux. Vous êtes sur RCF, nous sommes une radio chrétienne.
Oui.
Et j'ai envie de vous poser cette question que je pose à tous mes invités. Pour vous, qui est Dieu ?
Dieu, c'est un compagnon depuis toujours. J'ai moi aussi un parcours catholique, engagé, familial, des valeurs aussi que j'essaye de transmettre à mes enfants. Donc c'est un compagnon quotidien.
Et alors justement, si vous vous retrouviez en face de ce compagnon, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ?
Je lui demanderai pardon déjà pour tout ce que j'ai pas bien réussi, évidemment. Et puis, je lui demanderai de continuer à me soutenir pour réussir tout ce que j'entreprends.
Et alors, RCF, c'est aussi le slogan « La joie se partage ». Et j'ai envie de vous demander, quelle est la dernière joie, petite ou grande, là, depuis début 2022, qui vous a fait sourire ou qui vous a rempli de joie ?
Écoutez, sur un plan personnel, très égoïstement, c'est la réussite de projets de mes enfants. Vous savez que quand on a des enfants, évidemment, on les suit, on est heureux avec eux, malheureux avec eux quand ça se passe moins bien. Mon fils aîné vient de partir vivre à Hanoï, au Vietnam. Ça a été une épopée par les temps qui courent, partir vivre dans un pays comme ça, c'est très compliqué.
Bah oui,
donc le voyage a été remis plusieurs fois, ils n'avaient pas réussi à prendre l'avion. Finalement, ils sont à Hanoï. Voilà, ça, c'était une grande, grande joie de les voir partir et d'avoir les premiers retours de leur installation là-bas. Mais voilà, vous voyez, c'est une petite joie égoïste qui fait du bien par les temps qui courent.
Et normal.
Et normal.
Et normal.
Et normal.
Et juste pour conclure, au fond, moi, une question qui me brûle. Quel est ce livre qui a pu vous inspirer tout au long de votre vie ou qui vous a marqué ?
Ah, alors, je ne suis peut-être pas allé chercher si loin, mais j'ai ramené deux livres. J'ai ramené le premier dont j'ai envie de vous parler. J'ai ramené Loin, qui est un livre d'Alexis Michalik. Alexis Michalik, c'est un auteur de théâtre, c'est l'auteur de Edmond, c'est l'auteur de Intramuros, du Porteur d'Histoire. Bon, vous voyez, c'est un personnage incontournable maintenant du théâtre contemporain qui parle vraiment au grand public. Et il a écrit aussi un premier roman qui s'appelle Loin, qui nous emmène de par le monde dans des aventures comme il sait le faire, un voyage à la fois une quête de sens, de spiritualité, une quête des racines aussi. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup touché et c'était aussi l'occasion de vous parler donc de cet auteur de théâtre formidable. Et puis j'en ai ramené un second qui est un roman graphique parce que j'adore la bande dessinée. Je suis un peu un lecteur compulsif. J'ai toujours 3 ou 4 livres sur ma table de chevet. Celui-ci s'appelle La Bibliomule de Cordoue. C'est un très beau roman graphique puisqu'il fait 250 pages à peu près. Et eh bien, il va nous raconter, ça se passe à Cordoue à la fin du 10e siècle, c'est la dynastie des Omeyyades. Il va nous raconter de quelle manière un eunuque va sauver d'un auto-da-fé. À cette époque-là, le calife veut brûler tout. Les livres de la bibliothèque de Cordoue, parce qu'il est sous l'emprise justement des religieux intégristes, et eh bien un eunuque va sauver des flammes toute une partie de la bibliothèque. C'est un très beau livre et qui est porteur d'espoir.
Voilà. Très bien, ben on va rester sur cet espoir là au travers de ce livre. En plus, qui est très beau, hein, on voit que c'est magnifiquement illustré, très qualitatif. Ça peut même faire l'objet d'un très beau cadeau.
Ouais.
Merci pour le cadeau que vous nous avez fait, en tout cas, de venir partager une partie de vous-même. Voilà. Et puis, bonne année, bonne programmation sur 2022.
Merci beaucoup pour votre accueil, RCF et Patrice.